téléspectateurs, bonjour.
Sociaux, 9h40 sur France Inter, l'instant M, ça passe vite et ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
La passeuse des Aubrais, c'est l'histoire d'un père qui ne parlait pas. C'est l'histoire d'une femme qui a pris deux enfants par la main et leur a fait passer la ligne de démarcation. C'est l'histoire d'un doute, c'est l'histoire des fantômes de la collaboration, c'est l'histoire de ceux qui sont morts en camp de concentration. La passeuse des Aubrais, c'est votre film, Michael Prazan, mais c'est aussi votre histoire. Bonjour.
Bonjour.
Vos précédents documentaires mêlaient archives et grands témoins de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci remonte le fil intime, très intime, de la mémoire familiale. Il le fallait, tant la zone libre était pour vous pleine de zones d'ombre.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors on va commencer par un rapide petit retour sur la planète média, hein, c'est de l'actu. Passe d'armes ce week-end, Libération a publié des documents confidentiels sur la future réforme du Code du Travail, encore à l'ébauche, ça c'était la semaine dernière. Dans la foulée, la ministre Muriel Pénicaud a porté plainte contre X pour vol et recel de documents, sachant que la fuite venait manifestement de sa propre administration. Laurent Geoffrin, le patron de Libération, lui a répondu samedi dans le journal, précisant que cette plainte visait à la fois le quotidien, mais aussi ses sources, et soulignant, bien sûr, c'est le titre de sa tribune, l'obligation d'informer n'est pas un délit. Et puis, un petit point sur la valse des visages qui se poursuit en télévision, ça s'appelle le Mercato. La saison prochaine, c'est confirmé, Laurent Bignolas, que vous retrouverez aux commandes de Télématin, qui est l'émission de télévision la plus regardée du début de journée. Bignolas, vous le regardez peut-être animer la matinale de France Info Télé en ce moment. L'Emergie quitte le service public pour arriver sur C8. Donc, c'était lui le visage de Télématin. Il arrive sur C8. La chaîne officialise sa séparation avec Daphné Burki. L'Emergie va remplacer Daphné Burki, qui pilotait la très bonne tranche du midi, la nouvelle émission. Ça, c'est terminé pour Daphné Burki sur C8. Par ailleurs, Paris Première arrête Polonium, l'émission d'entretien conduite par Natacha Polony, une émission souvent de très très bon niveau. Voilà La Passeuse des Aubrais. Voilà ce film, Michael Prazan, sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années. En tout cas, c'est un film qui a mûri, qui a été en gestation. 18 mai 2006, Brie-sur-Marne, siège de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, collecte de témoignages des enfants juifs dont les parents ont été déportés. Votre père, Bernard Prazan, accepte enfin de raconter, enfin, face caméra. Il dit votre grand-père, embarqué parmi les premiers à Pithiviers. Il dit l'exceptionnelle permission dont il a bénéficié. Il dit ce qu'il n'en a pas fait.
Les amis de mon père lui ont dit, mon père avait des moyens, prends ta femme et tes enfants et pars, sauve-toi Adolphe, sauve-toi. Il a dit non, ils n'ont rien à m'approcher, je ne crois pas qu'ils vont me garder plus longtemps. Et il est retourné, et jamais revenu. Et c'est vrai, je lui en veux un peu pour ça, oui. Je lui en veux, comme on peut en vouloir un être cher et qui a eu cette réaction. En fait, j'ai jamais connu mon père vraiment. J'aurais bien voulu le connaître.
Michael Prazan, qu'est-ce que ça a été pour vous d'être l'enfant d'un père qui tait son enfance, qui ne parle pas ?
Ça a été difficile. Mon père n'était pas quelqu'un de facile. Il avait été, on ne peut pas dire élevé finalement. Il n'a jamais été élevé, il n'a pas reçu d'éducation, il n'en a pas eu l'occasion. Il est même allé très peu à l'école, la guerre ne lui en a pas donné le loisir, et c'est vrai que sans doute il était un peu désemparé face à l'éducation des enfants, comme beaucoup d'orphelins de cette période-là en tout cas. Et toute une première partie de ma jeunesse a été très compliquée, dans des confrontations violentes avec lui. Mm-hmm. Je savais bien sûr d'où il venait, je savais sa difficulté face à la parentalité, mais en même temps, embarqué dans sa propre histoire... jusqu'à l'adolescence, mes relations avec lui ont été très compliquées. Il a fallu que je prenne du champ, que je prenne de la distance, notamment grâce au service militaire qui m'a envoyé pendant 2 ans au Japon dans un service civil, pour que nous nous réconcilions et que la dernière partie de nos existences en commun se déroule admirablement. J'avais beaucoup d'admiration, évidemment, pour mon père,
passé le stade de la peur de l'enfance. Ce n'est pas vous hein, qui avez conduit ces entretiens à l'INA. Vous y avez assisté dans une pièce à côté. On sent, même s'il a accepté enfin de parler, on sent sa distance, on sent sa raideur. Jamais d'émotion, jamais, jamais quelque chose qui déborde. À un moment, il raconte ce jeune homme qui a caché lui-même, enfant, et sa sœur dans les toilettes du train visité par les Allemands. Il dit que ce jeune homme a été fusillé. Il dit « J'espère que ça n'a pas été à cause de nous ». Et là, il ajoute « J'aimerais qu'on abandonne cette question ». C'est-à-dire qu'on sent qu'il était prêt à parler, mais pas de tout et pas complètement.
C'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour qu'il fasse ce témoignage à l'INA. Il était résolument contre. Hein. Il ne voulait absolument pas. Il avait même raccroché au nez de la jeune femme qui avait tenté de l'amadouer par téléphone de l'INA. Mais enfin, j'ai insisté. J'ai réussi à le traîner là-bas. C'est quelqu'un qui ne parlait pas. C'est quelqu'un qui ne voulait pas parler de ça. Et c'est quelqu'un qui ne regardait jamais dans le rétroviseur. Il avait horreur du passé. C'était aussi son caractère. Hein. Voilà. Et donc, pour le faire parler, j'ai pas trouvé finalement d'autres moyens que le faire témoigner devant une caméra, et c'était à l'origine, en tout cas pour moi, l'objectif, c'est-à-dire de garder, le faire parler évidemment, de dire des choses qu'il ne nous avait jamais dites, et puis de conserver pour la mémoire familiale son témoignage. C'est c'était ça. Ça initialement.
Et donc ça fait un témoignage filmé par une caméra, alors que vous-même vous étiez déjà en 2006 documentariste.
C'est le paradoxe.
C'est le paradoxe, mais du coup ça fait un matériel dont vous avez pu là vous emparer et vous servir pour construire ce
absolument,
film.
Absolument, plus tard.
Alors ce film qui raconte une histoire qui va bien au-delà de votre père. Ça raconte aussi ses enfants cachés pendant la guerre, qu'on a sans cesse déplacés, logés dans des fermes où ils furent manifestement très maltraités, mais aussi arrachés à des familles hein, où ils ont été aimés, choyés, adoptés, et puis ils ont été trimballés après-guerre d'institution en institution.
Ils courent, ils se bousculent, et l'ardeur du soleil, la sève du printemps, l'ivresse des jeux et des cris les captivent tout entiers par cette joie de vivre. Mais dans la course la plus folle, soudain quelque chose s'arrête. L'un d'eux cherche une solitude inusitée. Le ballon l'a entraîné plus loin que le réel. L'enfant se souvient du passé. Ils habitent une des maisons de l'Osée, œuvre de secours aux enfants. Peuvent-ils être comme les autres, ces enfants qui ont vu partir leur père et leur mère et dessinent 100 fois cette scène d'horreur?
Vous avez interrogé aussi les meilleurs amis de votre père, qui sont comme des oncles pour vous. Ils étaient à la vie, à la mort, et qui vous racontent cette enfance fracassée, privée d'éducation, vous l'avez dit, mais aussi privée de repères. Vous retrouvez des archives de congénères de votre père, des femmes qui disent que ça a été que de devenir mère quand on n'en a soi-même pas eu, c'est-à-dire de s'inventer papa et maman, finalement.
Oui, et je crois que tous ont été un peu embarrassés par ces questions. Alors, il y a eu évidemment différents types d'éducation ou de réaction par rapport à ça, mais dans l'ensemble, ça a été difficile pour eux et ça a été difficile pour leurs enfants. Mais bon, il y avait ma mère pour me protéger, et puis après, lorsque nos relations se sont apaisées, voilà, on a pu avoir des rapports beaucoup plus sains, beaucoup plus amicaux et beaucoup plus filiaux. Enfin,
alors, voilà. Votre père est mort en 2011. Quelqu'un contacte votre frère, Franck, dans un ouvrage intitulé « Les Juifs de Normandie ». On retrouve le témoignage d'une vieille dame. En 1942, elle a fait passer deux enfants, Jeannette et Bernard, en zone libre. Vous avez retrouvé cette dame, elle s'appelle Madame Léopold. Mais l'histoire de cette femme qui leur a sauvé la vie est entachée par le doute, par la conviction profonde, mais profonde, qu'avait contracté l'enfant qui était votre père à l'époque.
On a donc pris le train. Le train s'est arrêté à Orléans. Était-ce là le commencement de la zone libre ou pas? Ce que je sais, c'est qu'on est descendu du train, que la dame qui nous accompagnait devait nous remettre à la Gestapo. Et là, j'ai un souvenir très précis du regard qu'elle nous a jeté. C'était pour elle un moment de balance, certainement. Et elle a décidé de ne pas nous livrer.
Si vous avez fait ce film, La passeuse des Aubrais, Michael Prazan, c'est pour remonter le fil de cette confidence-là. Qui était cette femme qui a décidé de pas ? Et faut-il aller contre la conviction de votre père ou faut-il aller dans le sens de la conviction de votre père ? C'est tout ce qu'il y a d'extrêmement noué, d'extrêmement épineux dans ce film. Racontez-nous ce que vous avez compris de la trajectoire de Madame Léopold.
C'est très compliqué. Mon père avait cette certitude, c'était une fausse passeuse et en réalité elle aurait dû les livrer à la Gestapo. Et dans ce moment un peu suspendu sur la gare, le quai de la gare des Aubrais, qui est la dernière station avant l'Odyssée qui va les conduire en zone libre, Odyssée d'une journée, il y a ce regard et l'enfant de 6 ans qu'il était perçoit qu'en fait elle renonce finalement à les livrer à la Gestapo. Il a gardé cette certitude au fond de lui toute sa vie jusqu'à sa mort.
6 ans, il a vu ça dans son regard.
Et évidemment, quand je retrouve la passeuse, qui était incroyable, elle était plus âgée que lui, elle était encore en vie à sa mort et que je vais la voir, la première chose que je lui demande, c'est d'éclaircir ce qui était une certitude pour lui et ce qui était un doute pour moi. Elle n'y arrivera pas vraiment, mais je découvre aussi, l'arrière-chambre de la certitude de mon père, qui était un personnage incroyablement criminel, qui s'appelait Pierre Lussac, et qui effectivement était un faux passeur, qui a livré des dizaines de familles juives à la mort en les livrant à la Gestapo, et qui était la personne qui avait introduite Madame Léopold auprès de la tante de mon père, seule rescapée de la famille paternelle, et qui va confier les enfants, c'est-à-dire mon père et sa sœur, à cette jeune femme.
Et en fait, Madame Léopold, elle était serveuse dans une guinguette de la Marne, c'est comme ça qu'elle fait la connaissance de Pierre Lussac et de sa femme, c'est comme ça que Pierre Lussac lui propose de venir travailler avec eux, elle aussi de devenir passeuse. Vous dites, de Pierre Lussac, qui a été jugé et fusillé après la guerre, que c'est, je vous cite, un des pires échantillons d'humanité générés par la collaboration. Vraiment une ordure dans toute sa splendeur. Il a du sang sur les mains, mais à une échelle qu'on imagine peu.
Après une première carrière au début de la guerre comme faux passeur, où il soutirait des très fortes sommes d'argent aux gens qu'il était censé faire passer et qu'il livrait en définitive à la Gestapo, il va être recruté par la Gestapo d'Orléans et devenir le plus zélé collaborateurs français, qui ne rechigne jamais à la moindre séance de torture, à l'assassinat de sang-froid, et qui a pour fait d'armes le plus connu parmi des centaines d'autres l'assassinat d'une trentaine de jeunes résistants parisiens qui voulaient rejoindre les maquis du Limousin et dont la moyenne d'âge était 17 ans. Il va en assassiner lui plusieurs dans un peloton d'exécution une fois qu'ils seront pris au piège de ces manigances pour pouvoir les arrêter. Ils étaient vraiment de passage, ils s'arrêtaient une nuit dans la région. Il avait eu, Pierre Lussac, le tuyau par un jeune résistant retourné et infiltré parmi le groupe. Et oui, c'est un personnage absolument abominable.
C'est lui qui va dénoncer, c'est lui qui va arrêter Madame Léopold, sans doute parce qu'elle n'a pas livré les enfants à la Gestapo, mais parce qu'elle les a sauvés. Madame Léopold, elle a payé très cher, manifestement, ce regard, ce moment de balance sur le quai de la gare.
Et c'est là, si vous voulez, qu'un horizon incroyable et inexploré dont je n'avais aucune idée, s'ouvre à moi. C'est-à-dire qu'effectivement, Pierre Lussac, apprenant qu'en réalité, elle a fait passer les enfants contre sa volonté, visiblement, l'a fait arrêter. Madame Léopold est envoyée dans le convoi du 24 janvier 1943, qui est un convoi incroyable, celui de Marie-Claude Vaillant-Couturier, de Daniel Casanova, des plus grandes résistantes communistes françaises. Elle se retrouve parmi elles par hasard. Elle va être envoyée à Birkenau. Et c'est le seul convoi de résistantes ou de politiques non-juives qui va arriver dans cet endroit abominable. Et
elle
va y passer
sortie,
près d'un an.
Mais des années après, elle a voulu retrouver votre tante Gisèle, qui a survécu. Elle a voulu retrouver votre père. Elle a été très très mal accueillie dans cette maison. Votre tante l'a manifestement mise à distance, l'a repoussée, ne voulait pas qu'elle voie votre père, jusqu'à ce que votre père, soudain, fasse son apparition.
Et tout d'un coup, je vois une porte qui s'ouvre, un grand jeune homme qui rentre. Il a fait 3-4 pas, presque en courant. Il m'a attrapé comme ça sur les bras, il m'a levé en l'air, puis il m'a dit « qu'est-ce que je suis content ». Et là, on a parlé et elle voulait y mettre son mot. Alors, il s'est retourné et il lui a dit « Il n'y a que Madame Léopold et moi-même, Jeannette, qui savons ce qui s'est passé. » vous n'y étiez pas. Alors taisez-vous.
Voilà la voix de Madame Léopold, la passeuse des Aubrai. Oui, ça s'est passé entre cette femme et ses enfants. Et la vraie question que pose votre film, c'est qu'est-ce que l'histoire retiendra des déserrements? Parce que peut-être que cette femme a collaboré, peut-être qu'elle a travaillé avec Pierre Lussac et en même temps elle a sauvé un enfant. Voilà, qu'est-ce que l'histoire doit retenir du geste et de la morale d'un homme?
Il y a d'une part les individus, c'est aussi une question de distance par rapport au sujet. Je m'intéresse à des individus jetés dans un univers qui les dépasse et au fond qu'ils ne comprennent pas nécessairement. On a un enfant, on a une femme très simple qui vient d'un milieu prolétaire et qui se retrouve dans cet environnement dangereux dont les signes nous échappent, et il fallait que je me mette au niveau de ces individus pour voir finalement le paysage que eux voient à ce moment-là, et ça c'est très enrichissant, très intéressant.
Votre
et on y apprend beaucoup
père,
de choses.
Là aussi, marqué par son enfance, a gardé une dette envers les communistes, envers les jeunes gens qui l'ont déplacé de famille en famille. Il en parle dans son témoignage à l'INA. Lui, il dit c'était le rêve de Marx et Engels.
Il avait une admiration infinie pour la résistance communiste. Oui. Après la guerre, il a été dans les maisons d'enfants que vous avez citées, celle de Lozay, mais surtout celle de la CCE, qui était un organisme juif très militant, très communiste. C'est principalement dans ces maisons d'enfants qu'il a passé sa jeunesse et son enfance, et évidemment il y avait un prosélytisme à tout craint qui régnait dans ces maisons-là, et il a été très influencé par l'héroïsme de l'armée rouge, par par la propagande, si vous voulez, dont il était,
lui
et d'autres.
Vraiment tracé tout le trajet de votre père avant de nous faire connaître et rencontrer la passeuse des Aubrai. Il était fils de boucher, privé d'école dans son enfance, vous l'avez raconté. Il s'est lancé dans la confection, il a été un travailleur acharné, un commerçant très avisé, apparemment un homme d'affaires. Il a été frappé au cours de sa vie par la peinture abstraite des années 70. Même son ami Roger, que vous interrogez, dit qu'il ne comprend pas. Ça a été une passion ravageuse, dévorante. Ça a été un choc esthétique, les Soulages, les Fautriers, les deux Stahl, tous ces tableaux qui envahissaient les murs de la maison et même de votre chambre. Vous voulez expliquer, vous, ce choc esthétique qui a changé sa vie?
C'est difficile à expliquer,
oui,
parce
c'est
vraiment une passion dévorante. Et à partir du moment où il a découvert la peinture, il n'a pensé, fait que ça. Enfin, ces rares moments de loisir étaient consacrés à la visite des musées. Enfin, c'était quelque chose qu'il habitait profondément et totalement. Pourquoi cette révélation? Je crois qu'il était, c'était quelqu'un qui était quand même très brillant en réalité, qui n'avait pas eu la chance de faire des études et qui était sans doute habité par des préoccupations plus grandes que lui-même, plus grandes que le quotidien. Et je crois que sa soif d'érudition et d'absolu, qu'il a vraiment taraudé toute sa vie, il l'a trouvé ou il l'a projeté dans cet amour de la peinture abstraite des années 50, 60. Et c'est quelque chose qui a bouleversé sa vie, qui a bouleversé ses comportements.
Et lui, il dit face caméra à l'INA, il dit « Je suis un autodidacte, je suis un primaire, mes enfants m'ont vengé. » Et ses enfants, donc c'est Franck, manifestement, qui a repris la suite
de la galerie.
Et vous, à travers ce film, entre autres, merci beaucoup, Michael Prazan.
Merci à vous, Sonia.
La passeuse des Aubrai est diffusée demain soir sur Arte à 22h50. Un grand morceau d'histoire trouble qui raconte, à mon avis, un grand morceau d'un peu toutes nos familles. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sana de Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Quelques conseils ce matin pour prévenir la crise cardiaque qui touche de plus en plus de femmes d'ailleurs. 01 45 24 7000.
Voilà, des conseils et puis des questions. Je pense qu'on a beaucoup de questions. Les gros fumeurs vont vous appeler en masse. Ce sera juste après les infos.